Le grand entretien avec ce matin Françoise Dossé, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste également de la Russie. Bonjour madame.
Bonjour.
Depuis des semaines, le pouvoir russe est confronté à un mouvement fort de contestation. Nombreux sont les Russes qui protestent contre notamment l'exclusion des candidats de l'opposition aux élections locales de septembre. Ces manifestations, Françoise Dossé, ont été réprimées avec force. Il y a eu plus d'un millier d'arrestations sur les deux derniers week-ends. Pour la première fois, là, cette fois depuis un mois, Moscou autorise à ceux qui protestent une manifestation donc autorisée aujourd'hui, cet après-midi, dans les rues de Moscou. Ça veut dire quoi? Il y a un changement de ton?
Oui, alors effectivement, la manifestation d'aujourd'hui est autorisée, ce qui n'était pas le cas des manifestations de ces dernières semaines et qui avait conduit à de très très nombreuses arrestations. Alors il se trouve que maintenant, la plupart en fait de ces leaders de l'opposition sont en rétention administrative, sont en prison, sont empêchés de participer. Aujourd'hui, la manifestation est autorisée. C'est probablement une volonté malgré tout de faire baisser un peu la pression, enfin en tout cas le degré d'affrontement hein, avec les opposants, mais qui sont de fait déjà empêché. Donc la manifestation d'aujourd'hui va permettre éventuellement à ceux qui sont toujours qui sont libres, disons, d'essayer de mobiliser leur soutien à la fois pour demander une nouvelle fois l'enregistrement des candidats déboutés, hein, mais aussi pour demander la libération de leurs camarades qui eux sont en prison et qui pour certains risquent des peines très lourdes, hein, puisqu'ils sont ils risquent d'être accusés de désordre massif à l'ordre public. Ils peuvent subir des condamnations très lourdes.
Qu'est-ce qui joue de part et d'autre, Françoise Dossé?
Alors en fait, ce qui est un peu paradoxal dans ces manifestations, c'est qu'au fond, elles se jouent autour d'un enjeu qui est relativement mineur. C'est-à-dire que les élections à la Douma de Moscou, ce sont des élections de niveau très local pour une assemblée qui a relativement peu de pouvoir. Donc ce qui se joue là autour de ces élections, c'est autre chose en fait. C'est la volonté en fait de ces militants d'opposition d'essayer de participer à une vie politique dont ils sont exclus depuis près de 20 ans en fait maintenant, et donc ils essayent en fait de passer par ces élections, par ces échelons très locaux, hein, par ces élections très locales pour essayer de retrouver une voie politique au niveau de la Russie tout entière. Et plusieurs en fait des candidats déboutés sont en fait des hommes politiques d'ampleur fédérale, disons, hein. C'est le cas par exemple de Dmitri Goudkov qui était député à la Douma d'État, qui a perdu son siège, mais qui est un homme politique qui pourrait prétendre à participer, disons, à la grande politique en Russie. Or l'accès à la grande politique leur est complètement bloqué.
Vous dites, Françoise Dossé, ces élections sont mineures. Mais alors, pourquoi le pouvoir en a-t-il peur? On a l'impression qu'il a peur qu'il y ait une brèche qui s'ouvre.
Oui, il a peur qu'il y ait une brèche qui s'ouvre et il a peur qu'il y ait une brèche qui s'ouvre à Moscou précisément. Alors, je voudrais simplement rappeler que bon, Moscou, évidemment, c'est la capitale et c'est une ville aussi qui a un statut spécifique hein, du point de vue juridique. C'est une ville qu'on dit d'importance fédérale. Il y a trois villes d'importance fédérale en Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol depuis l'annexion de la Crimée en 2015. Donc c'est une ville en fait qui relève de ce qu'on appelle le pouvoir d'État et c'est pour ça que l'enjeu des élections qui s'y déroulent est particulier, même si ce sont des élections très locales.
Quelle est la différence avec, on a vu des manifestations d'opposants, c'est quoi la différence aujourd'hui avec ces manifestations d'hier?
Alors moi je dirais qu'elles sont dans la continuité en fait, des manifestations de ces dernières années.
C'est un mouvement qui prend de l'ampleur?
C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, c'est un mouvement qui a été très important en 2011-2012 au moment de la lutte contre les fraudes électorales, hein, au moment de la réélection de Vladimir Poutine. Donc il y a eu des manifestations de très grande ampleur à Moscou. Et en fait, alors de nombreux leaders qui étaient actifs en 2011-2012 sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il y a une continuité. Hein. Et quand je dis que ce sont des hommes politiques d'ampleur fédérale qui animent ce mouvement, ce sont ces hommes politiques en fait qui ont émergé au début des années 2010. Donc Alexei Navalny, cette fois, n'est pas candidat, mais il soutient hein, l'une des candidates, Lyubov Sobol. Des gens comme Dmitri Goudkov ou Ilya Yashin sont des militants qui étaient déjà très actifs en 2011-2012. Donc on voit en fait une forme de continuité dans cette opposition hein, et des, au fond des leaders qui s'aguerrissent au fil des années et qui essayent d'exploiter toutes les failles au fond de ce système pour essayer de retrouver, de pouvoir participer à la vie politique du pays.
Vous dites qu'il y a une continuité et en même temps il y a une jeune génération qui est arrivée dans ces manifestations.
Alors il y a une jeune génération qui effectivement qui participe. Alors en fait ces militants d'opposition essayent d'utiliser toutes les ressources à leur disposition. Elles sont peu nombreuses hein, parce que le rapport de force est très inégal, évidemment, on le voit très bien avec les répressions, hein. Mais ils essayent d'utiliser toutes les ressources à leur disposition pour agir, et ils sont notamment très très actifs sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils utilisent beaucoup ces outils numériques, notamment donc Facebook, Instagram, etc. Ils réussissent ainsi à mobiliser effectivement les plus jeunes générations qu'on a vu manifester aussi ces dernières années, notamment pour défendre les libertés du numérique. Donc ça, c'était l'année dernière, des manifestations assez importantes à Moscou.
D'autant qu'à Moscou, là, il y a eu deux coupures d'Internet pendant les manifestations les deux derniers week-ends.
Tout à fait. Et ça montre en fait l'attention aussi portée par le pouvoir à cette question des usages du numérique par les opposants et les manifestants.
Mais en même temps, la Russie est un pays immense. Quand il y a une manifestation de 22 000 personnes à Moscou, on peut se dire c'est petit au regard de l'immensité du pays.
Oui, alors à nouveau, faut revenir quand même à la
sur le lieu emblématique de Moscou.
Voilà, de Moscou. Moscou, c'est 12 millions d'habitants. C'est la grosse mégalopole russe. C'est presque 10% en fait de la population russe. Et en fait, ce qui est plus important, je pense, c'est de voir il y a un sondage qui a été réalisé par le Centre Levada, qui est le centre de recherche sociologique indépendant, qui montre quand même qu'un tiers des moscovites soutiennent les manifestants. Donc c'est déjà très significatif, hein, d'après ce sondage. Donc à prendre avec précaution, mais tout de même, un tiers des moscovites soutiennent les manifestants, un tiers les condamne et un tiers serait indifférent. Et c'est à peu près cohérent avec d'autres chiffres qu'on peut avoir, et notamment en 2013, Alexei Navalny s'était présenté à la mairie de Moscou, il avait obtenu 27% des suffrages. Donc on est bien dans ce tiers à peu près hein, de la population moscovite qui soutiendrait le mouvement démocrate et libéral. Donc dans cette grande capitale hein, très peuplée, ça a quand même un sens qui va au-delà voilà, de Moscou même et qui vaut pour l'ensemble du pays.
Comparaison n'est pas raison, mais quand Erdogan en Turquie perd Istanbul, président conservateur qui perd Istanbul et qui est finalement ridiculisé parce qu'il y a eu deux élections, il n'y a pas aussi une crainte au niveau du pouvoir central d'entacher l'image à l'étranger, en fait.
Oui, alors bon, c'est vrai que alors ce qui est difficile pour décrypter un petit peu hein, ce qui se joue parmi les élites politiques à Moscou et en Russie, c'est évidemment très très opaque, mais il y a cette idée effectivement que l'exemple de ce qui s'est joué à Istanbul sert aujourd'hui de repoussoir au fond pour la situation à Moscou, c'est-à-dire que les autorités ont suivi ce qui s'était passé à Istanbul et ne veulent pas que ce scénario se reproduise à Moscou, d'où ces répressions quand même très violentes. De ces dernières semaines.
Mais il n'y a pas que ça. En même temps, il y a quand on convoque comme hier un diplomate de l'ambassade des États-Unis en Russie, quand on fait la même chose avec un diplomate allemand, qu'on parle d'ingérence dans les affaires russes, qu'on veut priver, par exemple, pour l'image, les droits d'un couple qui a manifesté avec son bébé. On a le sentiment qu'il y a c'est pas un pouvoir qui vacille, mais qui s'interroge.
Je dirais que oui. Alors, ce n'est pas complètement non plus nouveau. C'est-à-dire que on a le sentiment de faire face à un pouvoir autoritaire extrêmement stable, hein, et on est incarné par Vladimir Poutine depuis 20 ans. Donc, c'est quand même une stabilité autoritaire extrêmement forte. Mais en même temps, c'est un pouvoir qui vit d'une certaine façon d'une incertitude permanente. C'est-à-dire qu'on En Russie, au fond, la règle qui prévaut, c'est une règle d'incertitude permanente. On ne sait jamais très bien ce qui va se passer le lendemain. On ne sait jamais très bien quelle loi va être adoptée, quelle loi va être appliquée. Et donc, il y a cette espèce de gestion par l'incertitude qui est au fond, qui stabilise au fond ce régime autoritaire. Donc, c'est très paradoxal, en fait, ce mélange d'extrême stabilité politique et d'incertitude permanente qui s'appuie notamment, c'est ce que vous venez d'évoquer, sur aussi une mise en cause renouvelée des ingérences étrangères et internationales et occidentales. Et donc, cette idée de convoquer les diplomates occidentaux, c'est aussi d'une certaine d'une certaine façon dire que les manifestations, la protestation est alimentée par des puissances étrangères. Et on connaît assez bien malheureusement en Russie la loi sur les agents de l'étranger adoptée en 2012 et qui pénalise très fortement les associations russes notamment.
Françoise Dossé, spécialiste des questions russes, est l'invitée du grand entretien de la matinale. On poursuit cet entretien dans quelques secondes. À tout de suite.
France Inter, le 6-9 de l'été.
Françoise Dossé, spécialiste des questions russes, est l'invitée du grand entretien que l'on poursuit. Françoise Dossé, ça fait 20 ans, puis hier, que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie. Était-il possible d'imaginer à ses débuts ce qu'il ferait de la Russie aujourd'hui ?
Non, je crois que c'était absolument impossible de prévoir cette trajectoire complètement. Et donc il avait été d'abord nommé premier ministre en 99 par Boris Yeltsin qui préparait sa succession avant d'être élu président en 2000. Et c'est vrai que quand il est arrivé au pouvoir, c'était d'abord personne ne le connaissait. On se rappelle que c'était extrêmement énigmatique et on ne savait pas du tout quel était le programme qu'il allait mettre en œuvre, si ce n'est qu'il avait deux slogans. Restaurer la verticale du pouvoir et appliquer la dictature de la loi. Donc il est arrivé au pouvoir en fait avec ces deux slogans qui sont en fait extrêmement flous, même si on voit bien la dimension autoritaire. Et depuis, en fait, c'est un personnage en fait très paradoxal, puisque à la fois il vient des services de sécurité du KGB et en même temps il a connu l'expérience libérale des années 90 à la mairie de Saint-Pétersbourg où il était conseiller du maire de l'époque. Donc on voit bien ce mélange en fait ou cette rencontre d'un projet autoritaire, peut-être hérité du passé, et d'une bonne connaissance aussi des mécanismes libéraux, voire démocratique, qu'il utilise à son profit.
Le libéralisme qu'il dénonce avec force, il l'a dénoncé notamment au G20 dernièrement.
Alors, oui, qui dénonce avec force, mais en même temps en utilisant aussi un certain nombre de ressources qui permettent aussi l'exercice d'un autoritarisme, d'une coercition qui est une coercition au fond managériale et qui s'appuie beaucoup sur les acteurs privés. C'est-à-dire que, certes, l'administration russe est très forte, mais elle s'appuie énormément, elle délègue beaucoup, elle distribue en fait le pouvoir coercitif à des acteurs privés. Je ne sais pas, je peux donner comme exemple une grande compagnie numérique russe, la grande compagnie internet Yandex, qui est une compagnie privée, qui est le grand moteur de recherche russe, le concurrent de Google en Russie, et qui en fait agit comme un acteur privé sur le marché numérique russe, mais avec des contraintes fixées par l'administration, qui font que Yandex se transforme progressivement aussi en instrument du contrôle, de la surveillance, de l'encadrement de la population.
À partir de quel moment Vladimir Poutine fait ce virage ?
Oui. Alors les commentateurs divisent souvent un petit peu cette longue période, ces 20 années de gouvernement de Vladimir Poutine en deux parties et séparent assez clairement les années 2000, donc, et notamment ces deux premiers mandats, 2000-2008, qui ont été une période en fait de très forte croissance économique puisqu'il y avait des taux de croissance de 6 à 7% du PIB, donc une période de redécollage économique qui a malgré tout profité à la population puisque le niveau de vie s'est quand même globalement amélioré à cette période-là en Russie. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, une deuxième partie, disons, qui est celle des années 2010, que certains disent appellent la décennie perdue, qui est une année là où... qui sont des années où alors, est-ce qu'il faut parler de stagnation ? Je ne sais pas, mais qui sont des années où la croissance économique s'est beaucoup ralentie, où le pays a eu tendance à se refermer sur lui-même et où l'encadrement de la population s'est accentué.
Alors, Vladimir Poutine peut aller, les prochaines élections, élections présidentielles, en tout cas c'est 2024, mais jusqu'où il peut aller, en fait ? Il peut, pour vous, c'est quelqu'un qui va rester ?
Alors c'est très difficile à dire, de faire la prospective en Russie, c'est très compliqué parce que les mécanismes du pouvoir sont extrêmement opaques, donc on a peu de visibilité. On sait que Vladimir Poutine a déjà joué avec le texte et l'esprit de la Constitution, puisque normalement il n'avait le droit de faire que deux mandats consécutifs. Vous vous souvenez qu'il a été premier ministre entre 2008 et 2012. Il est à nouveau président là pour deux mandats de 6 ans. Alors, est-ce qu'il va être tenté de jouer à nouveau avec la Constitution d'une manière ou d'une autre ?
Mais c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir ? la notion de pouvoir, ou en tout cas la notion de Russie.
Oui, alors je pense qu'il ne faut pas non plus trop personnaliser, c'est-à-dire qu'on focalise tout sur Vladimir Poutine, mais en fait il faut penser à l'ensemble des élites qui gouvernent le pays, à la fois au niveau fédéral et au niveau local. Et l'une des questions qui se pose, c'est en fait, est liée à la corruption, c'est-à-dire que ces élites sont quand même si corrompues qu'elles craignent énormément toute forme d'alternance au pouvoir, qui risque de les mettre en péril, voire de les envoyer en prison. Et c'est un peu la même question qui s'était posée à la fin de la présidence de Boris Yeltsin, c'est-à-dire que les élites politiques étaient tellement corrompues qu'ils ont cherché une solution en interne pour garantir leur sécurité, au fond. Et l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 99, c'était accompagnée d'une clause qui faisait qu'il s'engageait à ne pas poursuivre, en fait, Boris Yeltsin et sa famille. Donc on peut prévoir un scénario un peu du même type.
Mais finalement, ça ressemble au régime des Brejnev, de tout ce qu'il y a eu avant, en fait.
Alors là aussi, donc effectivement, on est tenté un petit peu de faire le parallèle avec la période soviétique, ce qui est en partie probablement juste, c'est-à-dire cette volonté aussi d'assurer une espèce de une stabilité là des élites gouvernantes et d'élites assez corrompues. Mais ce que je disais, malgré tout, le pays a beaucoup changé, donc la société s'est quand même ouverte. Il y a eu aussi toute la révolution numérique, toute la révolution Internet, et donc la société russe n'est plus la société soviétique. Donc on voit bien que le pouvoir aussi est obligé de s'adapter à une société qui bouge, et c'est ce qu'on voit à Moscou actuellement. Ces gens qui se mobilisent, ce sont plutôt ce qu'on appelle les classes créatives, les jeunes entrepreneurs, les étudiants, qui en ont assez, en fait, ouais, de ce régime sclérosé.
Le lundi 19 août, Emmanuel Macron recevra au Fort de Brégançon Vladimir Poutine. C'est ma dernière question, Françoise Dossé. On se demande ce que ces deux hommes peuvent se dire en même temps, bon voilà, mais l'image de Poutine aussi, il a redoré aussi l'image de la Russie à l'étranger.
Il a redoré en partie l'image de la Russie à l'étranger, de façon parfois en utilisant des méthodes aussi assez peu recommandables. On sait ce qui s'est passé en Crimée, on sait aussi ce qui s'est passé en Syrie. C'est devenu effectivement un partenaire incontournable, mais avec tous les problèmes moraux et politiques que ça pose actuellement, et avec les manifestations qui se déroulent actuellement à Moscou et ses atteintes à la démocratie.
Parce que personne ne dit rien à l'étranger.
Voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il est très difficile actuellement, visiblement, de concurrencer, enfin, ou en tout cas de critiquer Vladimir Poutine, même à l'étranger. Et ça, c'est ça pose problème.
Merci beaucoup, Françoise Dossé, spécialiste de la Russie, d'avoir été l'invitée du Grand Entretien ce matin. Merci et belle journée à vous.